C'est bon, c'est bon. C'est bon.
C'est bon. D'accord. Juste je retrouve le nom de la personne. Donc on va faire aujourd'hui le coup pour acheter des mains de Johanna Sandy. Johanna Bat Alia Mouchka. Voilà. Allez pour le détail.
Top.
63e coup. C'est quoi le sujet aujourd'hui?
On continue les Mélafox. Cours particulier aujourd'hui. Bravo, voilà,
pour l'instant, c'est ça. Alors, je vous souhaite un bon cours.
Top.
Pendant ce temps-là, je vais rappeler le pote le rappel.
Alors, quelle est la Mélafox?
On continue. Il reste encore 3 Mélafox pour terminer toutes les Mélafox qui sont liées avec les peaux. La troisième grande partie. C'est formé en groupe les Mélafox. Là c'est tout ce qui est lié au pot. On a commencé avec tsad, chasser, après tuer, dépecer, travailler la peau. Maintenant il en reste 3. C'est quoi les 3 qui restent? Memachek.
Oui, effacer.
Non, c'est pas effacer, c'est mochek. Effacer, c'est mochek. Memachek, c'est rendre la peau lisse. Rendre, ça veut dire, on va expliquer. Rendre la peau bien, bien nette, bien lisse. Une fois qu'on l'a travaillée, il reste encore plein de saleté sur la peau. Donc il faut bien poncer la peau, enlever toute la pellicule, toute la saleté qu'il y a à la surface pour que ça rende bien net. Pour après que ça soit en plus utilisable. Après, il y a Messartet. Messartet, c'est faire tirer des traits sur la peau. Comme du pré-découpage.
Ouais.
Ça veut dire qu'on met bien, on encadre bien l'endroit où on veut couper pour pouvoir par la suite couper. Ça s'appelle Messartet. Sirtout, c'est des lignes. D'accord? Donc si on a une peau, la peau à l'état naturel, elle est un peu inégale sur les côtés. On veut que ça soit quelque chose de bien net sur le Mishkan. Donc on fait des traits comme ça, tout le rectangle, d'accord, un bon rectangle comme ça de peau selon les midot, selon les mesures, et on prépare le prédécoupage en fait. C'est
ça.
Donc ce prédécoupage, on fait une marque sur la peau, on démarque sur la peau où est-ce qu'on va couper, et après mechater, c'est couper, d'accord, couper la peau selon les mesures qu'on va avoir besoin pour le Mishkan. Une fois qu'on a travaillé la peau, on la nettoie, parce qu'on ne peut pas laver une peau. Donc comment on fait? On ponce la peau. On prend quelque chose, on vient, on frotte, jusqu'à ce que la peau devienne nette. Après, on met les Messartet, et après c'est Mechater, c'est couper. C'est les 3 dernières Mélafot qui restent dans ce groupe-là. Ça fait en tout ce qu'on a étudié maintenant depuis le début des Shiurim, ça fait 31 Mélafot, 31. Mais on s'approche de la fin. Ah, il y en a 39. Il nous reste encore 8. 8 Mélafot à étudier. D'accord, c'est le troisième grand groupe. Donc on y va, une nouvelle Mélacha, Memachek. Définition de la Mélacha de Memachek, c'est rendre lisse la surface d'un élément en utilisant tous les moyens. Frotter, gratter, poncer. D'accord? Maintenant, il y a des saletés sur la peau. Il y a une mélacha qui ressemble un peu à ça. Par exemple, sur la peau, il peut y avoir encore des poils de la bête sur la peau. Quelle est la mélacha? Si je tire les poils seulement, c'est quoi ton mélacha? Tu t'appelles? Non?
On retire si. Le mauvais du bon.
Non. Non, tirer les poils. Arracher les poils de la peau. Il n'y a pas de mélange. Mauvais du bon, c'est quand il y a un mélange. Rappelle cette mélacha, je crois que tout à l'heure qu'on a fait cette mélacha. Gozez. Tondre.
Tondre, oui.
Ron. Gozez était la première de tout le groupe d'avant, de toutes les mélachas d'avant qui étaient liées au tissage. Donc tondre. Tondre, on a dit que c'est pas seulement lorsque la peau elle est vivante. On avait parlé de la fourrure. Rappelle. On a dit que si on a un manteau de fourrure, s'il y a des poils là-bas qui nous dérangent, il y a une saleté, qu'on arrache des poils de la fourrure, ça interdit la Torah. Vous avez gozez. Pourquoi? Parce que les poils dans la fourrure, elles sont encore attachés à la peau. Et puisque ça, quand c'est encore attaché à la peau, ça vit, c'est sa source de vie là-bas. Et quand on arrache, on détache de sa source de vie, c'est melechet de gozez. C'est comme tondre le mouton. C'est comme couper les cheveux. Là, la chose qu'on a vue avec les cheveux, avec les ongles, avec la peau. D'accord?
Ouais.
Seulement là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On prend pas des poils et on arrache. On est en train de poncer toute la pellicule de la peau. On la rend lisse, on la rend nette, on la rend claire, nette, parce que pour pouvoir après la teindre et pour la colorer et pour pouvoir après la mettre sur le Mishkan, il faut que ce soit une belle peau, pas une peau avec des saletés. Il faut que ce soit nette, lisse, d'accord? Comme le clap du Sefer Torah un peu, c'est Ménachot, ça nous fait rappeler. Le clap du Sefer Torah, c'est une peau de vache. Savons comment on obtient un clap de Sefer Torah net comme ça. Il faut pas seulement travailler la peau. Après ça, il faut bien rendre toute la peau complètement bien lisse, nettoyée, nickel. Ça, c'est Memachek. Memachek, c'est si ça égalise. D'accord? Si des fois la peau elle monte, elle descend, s'il y a des saletés, ça rend la peau nette et lisse. Aussi dans le clap du Sefer Torah, on fait des lignes. D'accord? Sur le clap lui-même, il y a plein de lignes. On fait avec un ustensile spécial, on marque des lignes. Pourquoi ils ont fait ces lignes là-bas? C'est pas pour couper. Ces lignes, elles sont faites pour le sofer, pour qu'il puisse écrire bien droit. C'est une halakha dans le Sefer Torah. Ça, c'est les sartètes. D'accord? Faire des lignes pour écrire ou faire des lignes pour découper le clav, c'est pareil, c'est le même but. Là, c'est faire des lignes pour découper et là, c'est faire des lignes pour écrire. D'accord? Donc la même chose qu'il y a dans un clap de Sefer Torah, qu'on a pris une peau à l'état naturel, on l'a bien travaillé pour que ce soit net pour écrire. Pareil, pour que ce soit beau pour le Mishkan et pour que ça se colore bien, il faut bien rendre la peau lisse. Donc ça, c'est une melacha. Enlever les poils, c'est gozez. Rendre bien nettoyer, comme je savais. Poncer la peau, c'est melechet, memachek. D'accord? Exemple classique. Quelqu'un qui prend un papier de verre, on va dire il a une table, il a fabriqué une table, mais elle n'est pas encore bien neuve comme ça, elle n'est pas encore bien lisse. Il prend un papier de verre et il frotte. En prenant un papier de verre et frotter, ça rend net la surface. C'est Memachek. Il y a bien une sciure qui sort, il y a bien une poussière qui sort. Cette poussière d'où elle vient? C'est tout ce qui n'était pas égal, c'est toutes les saletés qu'il y avait au-dessus, c'est tout ce qui n'était pas net. En frottant, on obtient quelque chose de clair. Ça, c'est l'interdit de Memachek de la Torah. Maintenant, on va voir des exemples classiques dans Shabbat où c'est qu'on rencontre cette Melacha de Memachek. Alors, un exemple qu'on a déjà vu, on a déjà parlé de ça une fois, c'est le cirage, cirer les chaussures. Alors, je ne parle pas d'un cirage, liquide, cirage qu'on achète comme ça, avec la mousse et liquide. Je parle des vrais cirages. Les boîtes à cirage, les vrais cirages noirs. Lorsque je mets le cirage, qu'est-ce qui se passe? Le cirage, il est dur. Donc je l'étale. Hein?
Donc j'ai. Tu vas étaler le cirage sur le.
Sur la chaussure. Je l'étale. D'accord? Donc c'était un bloc. Et ce bloc, qu'est-ce que je fais? Je l'étale. Donc étaler, c'est la melacha de Memachek. Comment ça ressemble? Memachek, c'est prendre une peau et la rendre lisse. Maintenant, c'est pareil si je prends un bloc et si je commence à l'étaler. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on étale? La nature du bloc que j'ai pris va devenir beaucoup plus fin. Bon, il va être Memachek. Je le prends. Et j'appuie dessus. Donc c'est différent un peu de la peau qui était sale et que maintenant ça devient lisse. Mais c'est exactement pareil, je suis machlik. Machlik, ça veut dire que je prends quelque chose de dur et j'appuie dessus. La surface, elle devient très très lisse et très fine. Plus j'étale, plus ça devient fin. Donc ce changement d'état qu'il y a entre un bloc dur que j'étale, en étalant et en appuyant dessus, ça rend lisse et ça rend très très fin et ça change d'aspect. Ça, c'est la melacha de Memachek. D'accord? Pareil, rouge à lèvres.
Ouais.
C'est un tube. Et ce tube-là, il était dur et je l'ai étalé. Qu'est-ce qui se passe quand j'étale une matière qui est très dure? C'est comme je rends lisse. En hébreu, ça s'appelle mémaréar. Mémaréar, c'est étaler. Mais étaler une substance qui est dure, et là, ça la rend plus lisse. Ça la rend beaucoup plus fine. Plus j'étale, plus ça va être fin, fin, fin. Qu'est-ce qui se passe avec le rouge à lèvres? Il était en bloc. Et maintenant, il est étalé sur les lèvres. Donc là, il y a une couche de rouge à lèvres. La couche qui est étalée sur les lèvres, ça n'a rien à voir dans sa matière maintenant, dans son apparence, comme il était dans le tube. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fin, beaucoup plus luisant, beaucoup plus... Ça, c'est le même effet. J'ai changé d'aspect. C'est comme prendre une peau et la tanner, la poncer, pas la tanner, la poncer, bien la frotter, jusqu'à ce que je obtienne un aspect luisant et net. Donc, dans le rouge à lèvres, alors, rouge à lèvres, il y a aussi un autre problème, c'est sauver un, ouais, coloré. C'est pas un interdit de la Torah parce que c'est sur le corps. On a dit que sur le corps, c'est pas un interdit de la Torah, c'est interdit de la Rabbanan. Mais il y a un autre mélacha de la Torah qui rentre en jeu ici, c'est Mémaréar. Si c'est des maquillages qui sont des poudres ou des choses comme ça qu'on n'est pas obligé d'étaler, alors il n'y a que l'interdit de sauver des Rabbanan. On a vu des cas de figure où c'est permis, si jamais on met un. On met une poudre sans fond de teint quand ça tient pas. On a étudié les terim. Parce que c'est des rabananes, donc quand ça tient pas et c'est des rabananes, c'est permis. Mais lorsqu'on étale, tous les maquillages qui sont faits à base de choses dures qu'on étale, donc il peut y avoir des maquillages comme ça, qui sont durs, d'accord, que j'étale, que j'ai besoin d'étaler. Ça, le make-up par exemple, c'est quelque chose qui est dur, d'accord, c'est pas forcément une poudre. Tous les maquillages qui sont durs et que je suis obligé d'étaler, c'est Melacha de Memaréar. Le cirage, c'est un interdit de la Torah, c'est de sauver Agamour. Donc il y a deux interdits de la Torah dans le vrai cirage. Premier interdit, colorer les chaussures. Deuxième interdit, Memaréar. D'accord? C'est que j'étale là le cirage. Deuxième chose encore, Matsui, c'est de donner à des enfants jouer à de la pâte à modeler Shabbat. La pâte à modeler. C'est pareil, prendre la pâte à modeler quand on l'achète, elle est en cube comme ça, elle est dure, c'est des blocs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue la pâte à modeler? On prend ce cube là et on le travaille. Une fois que je l'ai travaillé, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus lisse. Donc j'ai changé l'aspect de la pâte à modeler à l'état naturel, à l'état quand on l'achète. Donc, c'est un interdit de la Torah. D'accord? Travailler, ça peut être même quelqu'un qui s'amuse avec une matière comme ça, qui est dure, et qui prend entre ses doigts et qu'il appuie. Le fait d'appuyer, le fait de faire toute action sur cette pâte-là qui est dure, ça va le changer d'aspect, ça va le rendre plus brillant, ça va le rendre plus lisse, plus fin. C'est interdit par la Torah. Hein?
C'est comme la cire de la boutade.
Exactement. Quelqu'un qui mange la boutarde Shabbat. D'accord, c'est bon, il mange une bonne boutarde. Mais après, il commence à s'amuser avec la cire. À faire des boules comme ça. À appuyer. Il s'ennuie à table. Ouais, il y a la dracha du Rav qui est trop long. Il prend la cire de la boutarde. Il commence à appuyer. Et jusqu'à ce que ça fait une. Il la transforme. Il joue à la pâte à modeler avec la cire de la boutarde. C'est un interdit de la Torah. C'est Memarek. Voilà la différence qu'il y a entre la cire à l'état naturel et la cire quand c'est travaillé. Pareil, pâte à modeler lorsque c'est acheté en cube, pâte à modeler une fois qu'elle a été travaillée. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus fin, ça a changé d'aspect. L'aspect extérieur il est beaucoup plus luisant et fin. C'est interdit par la Torah. Même des enfants qui jouent à la pâte à modeler, on n'a pas le droit de le laisser. Quelque chose qui est interdit par la Torah, on n'a pas le droit. Un enfant, même un enfant de 1 mois, il n'y a pas d'âge. Il y en a beaucoup qui se trompent. Il y en a qui ont mis la lumière, ils disent on va mettre l'enfant devant l'interrupteur, il va nous allumer.
Allumer, ouais.
Aucune différence. D'où on sait ça? Dans la Shabbat, c'est spécial. Dans toutes les mitzvot, les autres mitzvot, Chachamim, ils nous ont dit qu'on doit éduquer les enfants de faire les mitzvot. Mais Shabbat, Dans la Seret Adibrot, c'est marqué, tu dois garder le Shabbat, toi, tes enfants, toi, ton fils, ta fille, ton âne, ton chor, et marqué là-bas tout, ton évêque. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de dire, toi et tes enfants de Dieu? Si c'est interdit, jamais la Torah, elle parle de sa tresse directement, et les enfants aussi. De là, on apprend que si un enfant, il fait un interdit de la Torah, le père, il est obligé de l'interdire. Mais le Chet Shabbat, le Shabbat. On n'a pas le droit de laisser un enfant faire un interdit de la Torah pendant Shabbat. T'as de la Torah, des Rabbanan. D'accord ? Il n'y a aucune différence entre un petit enfant même de 1 mois. Si c'est pas l'âge de Chino. Rien à voir. Dans ce qui est interdit de Mélachot de Shabbat, c'est exactement pareil. Donc si on voit ses enfants jouer à la pâte à modeler, on dit ça, on touche pas. Il n'y a pas de... C'est un Mélachot de la Torah. Prendre la pâte à modeler, de l'étaler, c'est un Mélachot de la Torah. C'est même Aver, même Achek. Tov. La cire... Pareil, la cire de... On a parlé de la boutargue, elle est, toutes les bougies qui sont faites en shahava. En shahava, c'est de la cire, d'accord, c'est un interdit aussi, pareil, de la Torah. Alors, Chacham, ils ont fait une xéra. Si, par exemple, il y a un tonneau et on veut boucher le trou avec un morceau de cire dur, Chachamim ou interdit? Ouais. Pourquoi Chachamim ou interdit? De peur que si jamais le trou, il ne va pas être assez... il va rester encore un peu. Qu'est-ce qu'on risque de faire? D'appuyer sur la cire. Et si j'appuie sur la cire, je l'étale. Et c'est un interdit de la Torah. Donc, Chachamim ont interdit de boucher quelque chose avec la cire. En général, à l'époque, la Gemara, c'était plus matsouille. Aujourd'hui, on peut trouver ça avec toutes sortes de pâtes, pâtes anglaises, toutes sortes de choses comme ça. Des matières, des choses qui sont dures. De peur qu'on étale. Et si on étale, c'est un interdit de la Torah. Donc on n'a pas le droit d'utiliser même la cire pour toute utilisation, parce qu'on est très vite amené, on veut boucher, on a dit ah là il y a encore un petit endroit qui n'est pas bouché, donc viens on appuie. Dès que j'appuie sur la cire ou dès que j'appuie sur cette matière là, ça va le transformer, ça va l'étaler et ça interdit la Torah. Donc ça c'est une xéra de Chachamim. Encore un autre kaké matsui, les bougies. Des fois on veut allumer les bougies et on veut que la base elle tient bien. Qu'est-ce qu'on fait? Hein?
On verse la cire chaude
sur le feu, sur la flamme. On prend le bas de l'âne lunaire sur la cire.
Oui.
Ouais, on met sur la flamme et après que ça devient plus liquide comme ça, et on peut bien appuyer, ça tient bien.
Voilà.
Ça, hein, on va dire Shabbat, c'est pas matsouï parce qu'on peut pas toucher une bougie pendant Shabbat. Mais ouais. Par exemple, Yom Tov, on a le droit de toucher et d'allumer une bougie Yom Tov. D'accord? Donc des fois on allume la bougie, si je pose la bougie elle va tomber. Donc si je fais comme ça, je mets en haut, je fais chauffer un peu la bougie, après je pose, d'accord? C'est mes maréas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, c'est Yom Tov. Ça sourit Yom Tov.
On n'a pas le droit Yom Tov?
Non. On a le droit d'allumer la bougie.
Ah oui, ça c'est sûr, oui.
Allumer, on a le droit pendant Yom Tov à partir d'une flamme existante. Oui. Mais. De faire ce système là pour que ça tienne, de faire chauffer un peu la cire et après d'appuyer comme ça pour qu'au moment où j'appuie et je la fais bien tenir, je suis mémaréach la cire qui se trouve en bas.
Ouais, il faut la déposer sur un chandelier, c'est tout.
Voilà, il faut poser. Mais ça, on est amené. En général, quand on allume des nérodes comme ça avec des bougies à cire, on est toujours amené à faire comme ça pour que ça tient bien. Donc, ça, il faut savoir, c'est un interdit de la Torah de mémaréach. Il n'y a pas de différence Shabbat et Yom Tov là-dessus. Shabbat et Yom Tov, c'est qu'il y a quelques mélachot qui sont liés directement à Ochel Nefesh, au manger, ou bien au feu, des choses portées, d'accord? Ça, c'est Shayach à Yom Tov. Il y a quelques mélachot précises qui ont été permis à Yom Tov. Mais tout ce qui n'a rien à voir avec Ochel Nefesh, comme allumer une bougie, comme ça, ça, des mélachot qui sont autour, c'est exactement pareil Shabbat et Yom Tov. Donc, on ne peut pas faire ce système-là pendant Yom Tov, c'est même arrière sur la bougie. Aiguiser des couteaux, pareil. Qu'est-ce qui se passe quand on aiguise? En aiguisant, c'est on rend la lame, on change l'état un peu de la lame du couteau. Elle devient plus lisse, elle devient plus fine, elle devient plus. Et ça tranche mieux. Pourquoi ça tranche mieux? Parce qu'on a en frottant, ça a changé un petit peu l'aspect de la lame du couteau. Donc ça aussi, c'est un interdit de la Torah de Memachek. D'accord? C'est pas forcément sur des matières. qu'on enrichit ce qu'on a parlé de la pâte à modeler, la cire, tout ça, c'est des matières qui sont. Mais la peau, c'est quelque chose de très dur. Puisqu'on a changé d'aspect, ça change, ça devient plus lisse, ça devient plus fin, ça interdit la Torah. Un autre cas de figure, il y a par exemple des chaussures qui sont salies. Et je veux enlever la saleté avec un couteau qui est tranchant. D'accord, je prends une lame comme ça de couteau et j'enlève la saleté. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas seulement la saleté qui va partir, c'est ça une chaussure qui est un peu vieille. Il n'y a pas seulement la saleté qui va partir, ça va aussi. Hein?
La peau aussi.
Voilà, il va y avoir un peu la surface de la chaussure qui va se un petit peu frotter, qui va s'effriter, qui va. Ça va être interdit de la Torah. D'accord? On veut prendre enlever une saleté d'une chaussure, c'est permis, Shabbat. Mais si j'utilise un couteau qui est tranchant, la Gemara a dit que si c'est un habit qui est un peu usé, neuf, c'est pas tellement matsu. Quand c'est neuf, c'est encore dur, c'est encore bien. Mais quand c'est bien usé, il n'y a pas seulement la saleté qui va partir, il y a aussi une partie de la chaussure qui va plus se raffiner, plus s'égaliser, plus ça devient plus fin. Donc ça interdit la Torah d'utiliser une lame pour frotter une saleté qui est sur une chaussure. Maintenant, là-dessus, il y a des fois, surtout dans les maisons en Europe, il y a des fois des barzélimes comme ça, des fers à l'entrée pour enlever la boue sur les chaussures. À Paris, il doit y avoir beaucoup de trucs comme ça.
Pas du tout, des paillassons.
Avant, à côté du paillasson, il y a un genre de...
Ouais, des trucs en fer, ouais.
Voilà, des trucs en fer. Alors ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas tranchant. C'est quelque chose qui est fait juste pour enlever. Même si là-bas, on met une chaussure usée, jamais ça va effriter la chaussure elle-même. C'est large, c'est pas tranchant, c'est fait juste pour enlever la saleté. Donc ça, il n'y a pas de problème de prendre la chaussure et d'enlever les saletés sur ce truc en fer là. Ça ne va pas avoir d'effet sur la chaussure elle-même. Ça va juste enlever la saleté. Enlever une saleté, c'est permis. Le problème, c'est d'utiliser quelque chose de tranchant. Quand j'utilise quelque chose de tranchant, alors là, ça va aussi rendre bien un peu ça va un petit peu retaper la chaussure. Même à peine, même si c'est une petite surface, une petite pellicule, ça s'appelle déjà Memarek. Voilà. Ça, c'est en gros. Ah, il y a encore un autre Nekuda. La boule de fer pour faire la vaisselle.
Ah.
Ça aussi, on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. Pourquoi? Alors, je ne parle pas maintenant de tout ce qu'on a étudié avec faire la vaisselle pressée et essorée. Je rentre pas là-dedans. Et surtout dans les boules en fer, je ne sais pas si ça essort vraiment. Si c'est une boule, il n'y a que du fer, on ne sait pas, ça ne s'essort pas. C'est surtout quelque chose qui est d'habit qui s'essort. Mais il y a un autre problème avec le fer.
Il arrache toutes les saletés.
Hein?
Il arrache toutes les saletés qui sont dans la cocotte.
Si c'est les saletés, ça va encore. Il n'y a pas de problème d'enlever une saleté. Le problème, c'est que si c'est une marmite en fer et qu'on frotte, et quand on observe bien, lorsqu'on fait la vaisselle, il y a aussi des petites particules de fer qui sortent. Ouais, j'ai raison ou pas?
Tout à fait.
Il y a des petites particules de fer, des poussières de fer comme ça qui est fort parce que j'ai frotté sur le métal. Donc maintenant, ces particules de fer là, c'est pas seulement la saleté. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai. Quoi? J'ai frotté le fer. Donc j'ai été mémachek. Le métal de ma casserole ou de mes fourchettes ou de tout ce que je suis en train de frotter. Pourquoi on fait une boule de fer? Pourquoi on ne ferait pas un petit torchon ou une petite éponge? Cette boule de fer, elle est faite pas seulement, c'est vrai, ça est plus pratique pour les saletés, mais avec la saleté, il y a aussi une poussière de fer qui sort. J'ai pas vérifié ça sur tous les animaux, mais apparemment c'est comme ça. Il y a une petite poussière de fer qui sort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a enlever la saleté d'une part, mais il y a aussi être mémachek les marmites. Ça devient plus luisant, ça devient plus net parce qu'on a aussi enlevé une petite particule. Et dans cette mélacha, ça suffit même un petit peu de changer l'aspect, que ça devient plus lisse, plus fin, plus nickel. C'est interdit par la Torah de mémachek. D'accord? Donc faire la vaisselle avec cette boule de fer là sur des habits, sur des ustensiles qui vont avoir un effet avec cette boule de fer là, ça interdit la Torah de Memarek. D'accord? Si c'est une éponge, j'aurai un autre problème de d'essorer. Donc on a dit comment on faisait. On a dit il y a des éponges spéciales Shabbat qui sont il y a des espaces comme ça à l'intérieur de l'éponge, sans éponge, en plastique dur, pas en fer. D'accord, ou bien comme des, par exemple des sachets de pommes de terre. Vous voyez les sachets où on met les pommes de terre, le plastique comme ça qui est autour. Tout ce qui est fait en cette matière à peu près. Il y a des boules comme ça, des boules d'éponge de vaisselle comme ça, qui sont faites espacées. Ni on essore, ni ça frotte les ustensiles. D'accord ? Maintenant, il y a encore plusieurs cas de figure qui font voir. Il y a encore beaucoup de choses démarrassées dans cette mélacha, mais ça, j'ai pas encore bien capté encore tous les détails. Donc, j'ai pas envie d'enseigner. Mais ça, tâchez la semaine prochaine, on va parler de ça. C'est tout ce qui est lié aux pommades. Tout ce qui est pommade, crème, savon, dentifrice, tout ça. Tout ce qui est lié à ces choses-là. Est-ce qu'il y a la mélacha de Memachek là-dessus? Parce que lorsque je vais étaler, pareil, c'est quelque chose qui est compact, que je vais étaler. Est-ce qu'il y a l'interdit, d'accord? Comment rentrer dans ça? Comment utiliser une pommade Shabbat? Comment utiliser un savon, un dentifrice, tout ce qui est cachou à ça? Ça, on va laisser ça pour la semaine prochaine. Pour l'instant, on a parlé des choses qui sont klali. On a parlé de la cire, d'accord? Du cirage, du rouge à lèvres, pâte à modeler, la boule de fer, aiguiser les couteaux. D'accord, tout ça, c'est des cas qui sont pratiques et qui rentrent directement ni des rabbanan ni moutar, interdit directement par la Torah. D'accord. Maintenant, encore un dernier point, toujours qu'on arrive toujours à ce point-là quand on utilise la mélachot, c'est est-ce qu'il y a mémaréach dans les aliments? Est-ce qu'il y a mémachek dans les aliments? Comment dans les aliments? Est-ce que j'ai le droit de faire de la purée Shabbat? J'ai des pommes de terre, d'accord, cuites, et je les écrase. Donc en écrasant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étalé les pommes de terre.
On a étalé, on a transformé la matière.
Voilà, on a transformé de pommes de terre en purée.
Purée. Est-ce que on n'a pas droit, c'est avec la main gauche?
Non, et c'est permis ou c'est pas? Ou pas?
Je sais pas, moi je pense que c'est permis pour manger.
Alors là, la chaelek, c'est permis.
C'est permis, surtout pour un bébé ou personne âgée, quoi.
Non, pour tout le monde.
Tout le monde, hein.
Pourquoi?
Bah oui, on va dans la tasse la pomme de terre et on l'écrase.
Ouais, non, moi je parle de quelqu'un maintenant, ouais. Quelqu'un qui veut moi, j'écraser. Qu'est-ce qui se passe quand j'écrase la pomme de terre? Apparemment, quand j'écrase la pomme de terre, je suis mémaréach, j'étale. Quelle différence entre une pâte à modeler qui est dure, que je l'étale, que c'est interdit par la Torah? Pourquoi la pomme de terre, que je la prends, elle est dure, elle est compacte, c'est vrai qu'elle est cuite, elle est molle, en tout cas c'est un bloc. Et quand j'étale, j'ai la purée, elle est complètement étalée, elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fine. Pourquoi ça c'est moutard?
Pour manger.
Hmm?
Pour manger.
Manger, ça suffit pas encore, que c'est pas encore une raison de permettre. Parce que pour manger, j'ai pas le droit de cuire.
Non mais elle est cuite là, la pomme de terre.
Ouais. Non mais manger, c'est pas une raison de permettre.
C'est parce qu'on s'alimente tout de suite.
Et même dans la pâte à modeler, je joue tout de suite avec la pomme modelée que j'ai dans le tout de suite, ça permet pas ici. L'action que je suis en train de faire ici, c'est une action que je suis en train d'étaler, même si c'est tout de suite. Alors l'explication, elle est comme ça. L'explication pourquoi c'est moutard, il y a un clan qui dit que en memaréach baokhali. Pourquoi? Quelle est, si on réfléchit, l'action de memaréach? C'est quoi? On va prendre l'exemple classique du Mishkan. J'ai une peau, la pellicule de la peau, elle est très sale, il y a plein de saleté, c'est inégal et tout. Donc maintenant, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas commencer à prendre cette peau qui est sale et la tremper directement dans la couleur. Pareil, j'ai un Sefer Torah, j'ai fait d'une peau de bête. Si je ne rends pas lisse ce Sefer Torah, je ne pourrais pas écrire dessus. Donc c'est une étape qui est importante et qui va rendre apte à quelque chose de nouveau que je ne pouvais pas faire avant. C'est ça toute la mélachot. Faites attention, regardez, on est mélachot. Chaque étape, elle est indispensable. Ça veut dire que je ne peux pas travailler la peau si je ne l'ai pas dépecée. Je ne peux pas dépecer la peau si je n'ai pas tué le cerf. Je ne peux pas tuer le cerf si je ne l'ai pas chassé. Chaque étape, je ne peux pas faire si je ne fais pas cette étape-là. Donc c'est chachou, c'est important. Donc pareil, rendre la peau lisse, c'est quelque chose de khachou. Le cirage, quand il est dans sa boîte, il n'est pas comme sur la skis de la chaussure, c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici. Tandis que dans le manger, même si je dirais que je veux de la purée, mais avant la purée, la pomme de terre, elle est mangeable. Donc puisqu'elle est mangeable, le fait d'étaler la pomme de terre, c'est pas une étape qui va la rendre apte, qui n'était pas apte avant. Comprenez? Dans le manger, il n'y a pas de différence si c'est étalé ou pas étalé. C'est mangeable avant. C'est pas comme quelque chose qui est cru, cuit. Vous voyez? Cru et cuit, c'est une étape. C'est fachou, je ne peux pas manger quelque chose qui est cru. J'ai un poulet qui est cru, impossible de manger. Tandis que là, c'est une apparence, c'est juste une apparence. Donc, l'action que j'ai fait de rendre lisse la pomme de terre, c'est pas que la pomme de terre elle avait un problème et que maintenant je la rends lisse, qu'il n'y a plus de problème. C'est une autre manière de manger la pomme de terre. C'est pas une étape khashuva. Donc, c'est pas une melacha. Ça, c'est la logique. Maintenant, peut-être.
Pardon, excusez-moi. Ouais. Pardon, ouais. Rav. Donc, on peut éplucher la pomme de terre.
Alors, éplucher les pommes de terre, on rentre dans un autre problème là.
Non.
La peau, on peut l'enlever. Mais là, par contre.
C'est moutard.
C'est moutard d'enlever la peau d'une pomme de terre qui est cuite, ouais.
Ouais, bien sûr. D'accord.
Ouais. Pourquoi c'est permis? C'est permis, mais il faut une condition. Quelle est la condition?
De manger tout de suite.
De manger tout de suite. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans une étape. C'est quoi l'étape qu'il y a? C'est borer. C'est quoi borer? L'épluchure de la pomme de terre, c'est obsolète, on mange pas. Et la pomme de terre, elle est mangeable. Donc j'ai un mélange ici de mauvais et de bon.
D'accord.
Donc là, oui, là c'est une étape importante. Éplucher, c'est une étape importante. Et donc, puisqu'on peut pas enlever ici le bon du mauvais, je peux pas enlever la pomme de terre de la peau, je suis obligé d'éplucher. Donc ça devient une manière, il faut que ça soit samour la khila. On a dit dans la demi-heure ou... Ou si c'est dans la Seouda, on peut encore plus longtemps. Donc, toutes les règles qu'on a vues dans Melechet Borer. Mais là, écraser une pomme de terre, ça ne s'appelle pas, c'est loin hein, de l'action de travailler une peau, travailler une matière. Maintenant, pourquoi on ne dirait pas que ça ressemble? Comme on a vu la semaine dernière dans Me'abed. Vous voyez la différence qu'il y a? Lorsque je fais des variantes, la variante, elle va changer. Il y a un changement d'état ici. Ça n'a rien à voir un concombre qui est naturel, frais, et un concombre qui est resté comme ça plusieurs jours dans du vinaigre et du sel. Donc là, il y a eu un changement. Là, ça ressemble. Vous voyez? Même si c'est un aliment, ça ressemble, chachamim ou interdit. Mais là, prendre une purée et l'écraser, c'est très loin de prendre une peau et de commencer à la poncer. On est loin. Ça ne ressemble pas. D'accord? Donc, puisque ça ne ressemble pas d'une part, et deuxièmement, puisqu'elle était aussi mangeable même avant, donc ça devient complètement moutard. Il y en a qui sont mahmir. Il y a quelques poses qui me disent c'est bien d'être mahmir. Donc celui qui veut être mahmir, il y a une grande différence entre assour et mahmir. Très très grande différence. Il ne faut pas confondre les khumrot avec les isourim. Moutard, c'est moutard comme on a expliqué. C'est loin. Seulement c'est bien d'être mahmir. Celui qui veut être mahmir ne veut pas faire de la purée avant Shabbat, il n'a pas avant Shabbat. D'accord? C'est khumra. C'est pas une halakha, c'est une khumra. Maintenant, si quelqu'un il prend par exemple il veut prendre un morceau de pain et il veut étaler du chocolat comme ça dur. Ouais, pas de Nutella, le Nutella il est déjà très chocolat israélien qui est un peu plus dur, qu'il faut étaler. D'accord? Là, même Khumra, il n'y a pas. Pourquoi? Même celui qui veut être mahmir, il n'y a aucun lien d'être mahmir ici. Il veut étaler de la confiture sur sa tartine. Il veut. Quelle est la différence? Parce que là, lorsque j'étale le chocolat ou le beurre ou les choses comme ça, j'étale pas hein, pour obtenir une nouvelle forme. J'étale parce que c'est pratique. On étale pour étaler, pour pouvoir manger, pour que ça s'étale sur toute la tartine. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre pomme de terre purée et étaler du beurre sur une tartine?
Il n'y a pas de différence.
C'est une différence. Quelqu'un qui veut étaler une pomme de terre et qui fait de la purée, toute son intention, elle est d'étaler. Ça veut dire, son intention, elle est de changer l'aspect de la pomme de terre. Tandis que quelqu'un qui met du beurre sur sa tartine, son intention, c'est pas de changer l'aspect du beurre. Son intention, c'est que le beurre, il s'étale sur toute la tartine. Vous voyez la différence? Non?
Oui.
Il y a une grande différence dans la kavana. Quelqu'un qui fait de la purée, il veut que la pomme de terre s'étale et qu'il ait un autre aspect, une autre forme. Mais quelqu'un qui étale du chocolat ou quelque chose qui étale du beurre sur une tartine, il n'a pas un intérêt que le beurre, au lieu qu'il soit dur, il soit mou. Ce n'est pas ça son intérêt. Son intérêt, c'est que ce beurre il soit étalé sur la tartine. Donc la même khumra, il n'y a pas avec là. Parce que Bichra, son intention, ce n'est pas d'étaler, de rendre le beurre lisse ou tout comme ça. C'est juste d'étaler, technique. La purée, c'est un peu différent. Parce que mon intention, elle est de changer l'aspect de la pomme de terre. Maintenant, la lacha, c'est moutar gamo, comme on a expliqué. Mais celui qui veut être mahmir, il peut être mahmir. Alors celui qui veut être mahmir, il ne s'en mahmir que dans le cas qui ressemble à transformer une pomme de terre en purée. Mais pas dans étaler une marmite ou étaler quelque chose comme ça. Vous voyez ou pas? Vous comprenez? Le houmous, par exemple, chez l'Israélien. Il y en a qui aiment bien prendre dans les misardos comme ça, ils aiment bien d'étaler le houmous sur l'assiette pour que ça soit un bel aspect comme ça, lisse. Vous voyez? C'est pas comme étaler du houmous. Ouais. Pour ceux qui connaissent bien le houmous en Israël, c'est comme ça. On met un bloc de houmous, on prend une assiette et on étale bien le houmous sur l'assiette pour que ça soit beau, pour que ça soit bien lisse et fin comme ça. Plus on étale, plus c'est beau. Là, c'est comme la purée. Là, la chasse est moutarde. Celui qui veut être mahmir, il veut être mahmir. Mais prendre une tranche de pain et mettre du houmous sur le pain, mon but, c'est pas d'avoir un aspect de houmous plus fin et plus beau. Et plus étalé. Non, mon truc, c'est de l'étaler sur la marmite, sur la tranche. D'accord? Donc là, dans tous les cas de figure, même khumra, il n'y a pas, et c'est mouta. Voilà. Ça, c'est en gros la melecha de Memachek. Il y a un gros point très important qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui est lié aux pommades. D'accord? Pommade, crème, tout ce qui est crème, pommade, on va voir Bezrat Hashem la semaine prochaine et on clôturera le din de Memachek. Il y a des questions sur cette melacha? C'est bon?
Ça va.
On va passer à la melacha d'après.
Oui, ça va, merci.
Mesartet. Mesartet. C'est quoi Mesartet?
Des traits.
Faire des traits. Donc c'est quoi la melacha, on a dit? Il y a la peau comme elle est, d'accord, on l'a bien travaillée, ensuite on l'a bien poncée comme il faut, elle est nette. Maintenant il faut la couper, avant de la plonger dans la couleur, on va la mettre sur le Mishkan. Donc il faut qu'elle ait les dimensions exactes du Mishkan. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut la découper bien. C'est sûr que les pourtours et les rebords, ils vont être pas du tout, ça va pas être net, ça va pas être égal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avant de couper, on fait un trait. Ça s'appelle Mesartet. Il y avait un autre dans le Mishkan. D'accord? Sartet, c'est en français, c'est faire des traits, tracer. Tracer sur la peau. Il y avait un autre endroit au Mishkan où on faisait ça. Ça, on va voir par la suite. On va étudier la Melacha d'écrire. C'est la Melacha qui vient après. Écrire et effacer. D'accord? Écrire pendant Shabbat, c'est une des 39 Melachot. Où c'est que c'était au Mishkan? Où c'est qu'on écrivait dans la construction du Mishkan? Alors, dans la construction du Mishkan, il y avait des poteaux là-bas. D'accord? Non, on a parlé des pots, mais les pots, ils étaient dressés sur des poteaux. Donc il y avait un poteau, un à la suite de l'autre, un. Maintenant, chaque fois qu'il démontait le Mishkan et qu'il remontait, chaque poteau, il était exactement à sa place, un à côté de l'autre. Comment on fait pour savoir, pour ne pas se tromper? Il y avait des numéros. Chaque poteau, il a été numéroté. 1, 2, 3, Aleph, Bet, Gimel. D'accord? Donc on écrivait. Puisqu'on avait besoin d'écrire sur les poteaux pour se rappeler l'ordre de chaque poteau, où est-ce qu'il était. Donc, écrire, c'est une des 39 Melachot. Maintenant, avant d'écrire, pour que l'écriture elle soit nette et droite, qu'est-ce qu'on faisait? Un trait. D'accord? Comme dans les pages de cahier où il y a des traits. Pourquoi on fait des traits dans les pages de cahier? Pour écrire bien. D'accord? Donc tout trait qui est fait, ou pour pouvoir écrire dans le Sefer Torah, il y a des lignes. Ça c'est une halakha, si dans le Sefer Torah il n'y a pas de ligne, c'est pas soul. Pourquoi ça? C'est pour aider après au sofer, pour qu'il puisse écrire droit. Pour que le Sefer Torah il sorte nickel, droit, des lignes droites. Qu'est-ce qui aide le sofer à faire des lignes droites et pas des lignes qui montent, qui descendent? Les traits qu'on fait sur le clavier du Sefer Torah. Donc ça aussi, quelqu'un qui fait cette traite pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah, c'est mes tête. D'accord? Donc des prêts qui sont faits. Donc c'est quoi la melacha de Sirtout? C'est un trait qui a été fait avec pour but de faire quelque chose derrière. C'est-à-dire couper ou bien écrire. C'est clair? Ça, c'est la définition de mes tête. Donc, où c'est qu'on peut trouver? C'est une melacha très, très courte, ça, d'ailleurs, on va bientôt terminer. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme quelque chose de classique là-dessus pendant Shabbat? Alors regardez, j'ai vu dans un sefer un acharon qui dit quelque chose de ma'anien mi'od. Quelqu'un qui est en train de lire un, on va dire un petit feuillet intéressant, un petit dvar Torah comme ça qui sont distribués dans des feuillets comme ça, d'accord? Une petite feuille volante. Il y a un dvar Torah, il a trouvé quelque chose d'intéressant en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ça, faudrait qu'après Shabbat, je découpe ce petit dvar Torah qui se trouve en bas de la feuille. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie la feuille, il fait une pliure dans la feuille. Et, d'accord, il plie comme ça la feuille, une sur l'autre. Avec l'intention, après Shabbat, parce que Shabbat, il ne veut pas couper la feuille. Avec l'intention, après Shabbat, de couper ce petit carré de feuille pour garder. Vous comprenez le cas? Justement, je reprends le cas. Il y a une feuille. En bas de la feuille, il a trouvé quelque chose d'intéressant à lire. Bon, donc le haut de la feuille, ça n'intéresse pas, le bas de la feuille. Qu'est-ce qu'on fait en jour de semaine? On plie et après on coupe. D'accord? Il n'y a pas de pointillé pour détacher, comme dans les notes, les factures. Il y a toujours des petits pointillés pour après déchirer. Il n'y a pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique, on plie, et après on déchire. Donc déchirer, il ne peut pas pendant Shabbat. Il veut garder ce petit papier. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie.
Il n'a pas le droit. Parce qu'il a l'intention du travail qu'après Shabbat.
Voilà. Donc ce pli-là, c'est interdit à cause de mes sartètes. Pourquoi? Parce que cette pliure que je fais, c'est en fait comme si j'avais pris un ustensile et fait un trait sur la feuille. C'est comme quand je prends de la peau. Et je fais un trait sur la peau. Le trait que je fais sur la peau, et il reste sur la peau, il reste bien gravé dans la peau, ça se grave dans la peau. Pour pouvoir après savoir où je coupe. Donc là c'est pareil, il y a une feuille. Je plie, et en pliant, je vais savoir exactement où après déchirer la feuille. Vous comprenez? Ça c'est interdit de mettre sa tête. Parce que quand je plie, il y a un sirtout qui se forme, il y a une ligne qui se forme avec la pliure. Maintenant, si quelqu'un lit un livre intéressant, et à une page, il voit là-bas une belle histoire qu'il veut se rappeler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il corne le haut de la page. Il a le droit ou pas?
Pendant Shabbat,
ouais. Quelqu'un, il a préparé un chiour pendant Shabbat, il veut ouvrir, il ne veut pas perdre la page, il ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite cornure au-dessus, en haut.
Ouais.
C'est possible, je pense. Interdit de Hakamim. Parce qu'il n'avait pas l'intention de faire ça pendant Shabbat pour couper la feuille, comme l'autre fois, faire une feuille.
Très bien.
Vous voulez juste mettre un repère pour continuer son histoire.
Très bien, c'est juste un repère. Donc si c'est un repère, c'est pas fait pour après découper. Rappelez-vous la définition. La définition, c'est faire un trait pour pouvoir après découper ou pour pouvoir écrire dessus. Là, c'est ni pour pouvoir écrire dessus, ni pour pouvoir découper. Donc, c'est pas du tout la melacha. Et puisque ça ne ressemble pas du tout à la melacha, c'est permis. C'est moutard.
Ah, c'est permis.
C'est moutard. Un autre exemple. Quelqu'un qui a une feuille. D'accord, il a une feuille pendant Shabbat, une feuille de Dvar Torah qu'il a pris du Beit HaKnesset. Il veut la mettre dans sa poche maintenant. Donc, il a plié en quatre.
Non, ça, c'est interdit.
Pourquoi c'est interdit?
Parce qu'il a plié déjà, l'intention de plier, c'est interdit aussi de la transporter.
Ah, je ne parle pas qu'il a. Je parle qu'il est en Israël, ou je parle qu'il est. Il ne sort pas de chez lui.
Il peut porter.
Dans un endroit, il peut porter, par exemple chez lui.
En Israël.
Oui, il peut porter en Israël, ça dépend des endroits.
Ouais. Je ne rentre pas dans le problème de porter, il ne sort pas de chez lui. Il ne sort pas de chez lui, il a une feuille, il veut la plier en quatre et la mettre dans sa poche. Pourquoi c'est interdit?
Déjà parce qu'il a plié en quatre et puis il l'a mis dans sa poche.
Quel est le problème? Quel est le problème de plier en quatre?
La pliure, c'est pas pour faire des traits.
Il va pas la déchirer en quatre.
Il va pas la...
D'après ce que je... Enfin, Je pense que si on plie main adroitement, c'est-à-dire sans réfléchir, si on la plie comme n'importe comment, là oui, on a le droit. Mais quand c'est bien plié, tout ça, je pense que. Je sais pas.
Quel est le problème? Non mais. Quel est le problème? Encore une fois, on redéfinit la mélacha. La mélacha, c'est de faire un trait, un tracé, pour, avec un intérêt précis. Il faut que toute l'importance du tracé, elle est dans ce que je vais faire après. S'il n'y a pas ce qu'on va faire après, ça perd toute son importance, on ne sait pas de mélacha.
Mais quand on plie en quatre, c'est précis.
Même si c'est précis, mais qu'est-ce que je veux faire avec ce trait-là qui a été fait en pliant? Qu'est-ce que je fais avec? Rien. À force, ça abîme la feuille. J'aurais préféré la mettre en entier dans ma poche. Mais je peux pas. C'est pas pratique, donc je la plie. Mais ça abîme la feuille. Qu'est-ce que je fais avec ce trait de pliure? Rien du tout. À part que ça m'embête parce que ma feuille elle est plus abîmée. Et je fais rien derrière. Ni j'écris sur le trait, ni je déchire. Donc c'est comme faire la petite corne, exactement pareil. C'est moutard. D'accord, c'est moutard. D'accord, toute la mélacha. Encore ici, maintenant on revient. Avec les aliments. Quelqu'un qui a une orange pendant Shabbat et il veut faire pré-découper. On essaie dans les oranges pour que ça soit facile à éplucher.
Et on fait des traits.
On fait des traits comme ça dans l'orange. J'ai le droit ou pas?
C'est déjà fait, oui. Oui, c'est la manche de suite, oui. C'est pré-découpé, oui, c'est possible. Va la manger de suite.
Non, je parle pas de borer encore. Je parle pas maintenant de d'éplucher. Éplucher, on a parlé tout à l'heure. Je parle maintenant de préparer les traits sur le pot d'orange pour pouvoir l'éplucher. Deuxième exemple, un gâteau. Il y a un gâteau d'anniversaire. Il y a 30 personnes dans l'anniversaire le jour du Shabbat. Donc maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de bagarre avec le gâteau d'anniversaire. Je fais 30 traits comme ça, pour qu'il y ait 30 parts égales. Donc je suis mis sa tête sur le gâteau. Je fais un cire toute. Ouais.
Alors on va faire des traits très droits, tout, quand on fait des traits avec le couteau sur l'orange, ça fait des quartiers bien droits.
Voilà.
C'est comme ça, c'est des traits.
Alors là, la pareil, la logique, là, la khalé, c'est que moutard. En mechatech beokhalim. Pourquoi c'est moutard? Même logique. Quand je prends une peau et je fais des traits dessus, après je prends cette peau et je vais la couper. Quand je prends un claf et je fais des traits pour écrire, après je vais écrire derrière. Mais lorsque j'ai une peau d'orange et que je fais des traits, c'est pour l'éplucher direct. Qu'est-ce que je fais après avec ce trait qui a été fait? On fait rien, on mange. D'accord? Donc, puisque après on mange, donc il n'y a pas d'étape qui vient après. Encore une fois, c'est la même logique. C'est pas une étape, le clap du Sefer Torah qui est tracé, après il y a le Sofer qui vient derrière qui écrit le Sefer Torah. Donc, ça, c'est une étape rachouva. Sans ça, le Sofer, il aurait fait des lignes tout tordues. Pareil, un cahier. S'il n'y a pas de feuille et qu'on a un cahier, une feuille blanche, on ne peut pas écrire un texte droit, nickel. Donc, c'est fait pour après faire quelque chose d'important. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Le gâteau, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on mange. Il n'y a rien qui se passe après avec ce trait qui a été fait. Donc, c'est très loin de la mélacha. Ça ressemble même pas du tout à la mélacha. Il n'y a pas de mélacha. Donc, il n'y a même pas un issur de rabbanan. Et c'est moutard de faire toutes sortes de simonim comme ça sur les aliments. Bien sûr, je ne parle que faire que des traits, pas écrire. Écrire, faire des... Là, c'est autre chose. On va y arriver quand on étudiera la mélacha d'écrire. Ça, c'est assourd. On ne peut pas écrire sur un aliment. Parce que là, c'est déjà quelque chose du final. Bon, là, c'est un message clair dessus, c'est assourd. Mais là, c'est juste pré-découpé. Pré-découpé sur un aliment, ça n'a rien à voir avec pré-découpé sur un objet ou sur des choses qu'on va faire des jours. Ça, c'était la mélacha de Messartet. Messartet. Dernière mélacha qui nous reste. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est la dernière mélacha. On va voir la semaine prochaine. Mechater, c'est couper. D'accord? Mechater, c'est découper. Donc là, on va voir dans le Mishkan. Donc, ce qu'on faisait au Mishkan. Au Mishkan, il y avait des impôts. D'accord? Il y avait des midotes exactement, des mesures de longueur, de largeur. Et donc il fallait faire exactement selon la longueur et selon la largeur, il fallait découper exactement selon les mesures. Donc ce qu'il faut expliquer dans cette mélacha, c'est quelle différence entre ça et Coréa. Il y avait une autre mélacha qu'on a étudiée il y a quelques mois, mais les chètes Coréa. Rappelez, Coréa est offert, court et déchiré. Quand je coupe, je déchire aussi. C'est en fait déchiré. Le fait, l'action de couper la peau sur les côtés et de bien la rendre bien, c'est en fait déchirer la peau. Donc il faut expliquer quelle différence il y a entre la mélacha de Coréa et la mélacha de Mechater. On va expliquer ça la semaine prochaine, quelle est la différence. On va donner encore quelques exemples. Et voilà, exemple par exemple, pour terminer comme ça, pour un exemple de, que la Gemara elle donne sur les trois mélachot en même temps. À l'époque, on écrivait avec des plumes. D'accord ? Donc, dans fabriquer une plume, il y a les trois mélachot qu'on vient de voir aujourd'hui. Arracher la plume du poulet, quelle mélacha c'est ? Arracher la plume du poulet. Non. C'est comme tondre la laine d'un mouton. C'est gozèze.
Gozèze, oui.
La plume, elle est incorporée dans la peau. Je la tire de la peau, je la sors de sa source vitale. C'est gozèze. Bien fait. Après, qu'est-ce qu'on fait tout de suite dès que la plume a été arrachée, si on veut utiliser cette plume pour écrire un mot? Qu'est-ce qu'on fait avec cette plume? On travaille le bout de la plume. On ponce, parce qu'il y a des saletés, il y a l'endroit où ça a été touché dans la poule, dans l'oie. Il y a des saletés. Qu'est-ce qu'on fait pour la rendre bien nette? On frotte. Et le bout de la plume, il devient lisse et clair et net. Ça, c'est quel mélacha?
Est-ce qu'on vient de voir là?
Memachek. Voilà. Après, on fait une taille, on taille la plume. Il y a des fois des plumes qui sont énormes, des plumes qui sont trop petites, des plumes, il faut qu'il y ait la taille exacte. Donc dès qu'on prend la taille exacte de la plume que je veux, je la coupe. Ça c'est Mechater. D'accord? Trois mélachot pour fabriquer une plume. Gozèze, Memachek, bien frotter, il y a les saletés là-bas, on enlève les peaux. C'est pas seulement la peau, c'est même la plume elle-même, pour qu'elle soit nickel, bien nette, précise. Et après il y a Memachek, après il y a Mechater. Mechater, c'est selon la taille de la plume que je veux. J'ai une plume de 5 cm, j'ai une plume de 10 cm. Selon la mesure que je veux, je découpe des dioux selon la mesure. Ça, c'est la mélacha de Mechater. Donc ça, on va voir Bezrat Hashem la semaine prochaine. On verra aussi la pommade, qui est cachour la mélacha de Memachek. Et on clôturera tout ce dernier groupe de mélachot.
Chazak.